t'imagines si toutes les histoires des aînés, ça se passait dans le futur?
Alors, bon, je m'appelle Elisal de Hany, c'est mon nom de jeune fille, Elisal. Mes parents étaient originaires du Pays Basque. Et donc, moi, je suis née dans un tout petit village du Tarn-et-Garonne, où ma mère était née aussi, en 1940, c'était au moment de la guerre. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'attaches à ces origines-là du Tarn-et-Garonne. Et après, mes parents sont venus, plus tard, ils sont venus en Normandie. Moi, je suis l'aînée et j'ai ma sœur qui a 2 ans de moins que moi. Et mon dernier frère, il a 11 ans de différence avec moi. Mm-hmm. Alors, il y a 2 filles aînées plus 4 garçons.
Donc, tu as passé tes premières années dans le Tarn-et-Garonne.
Alors, au moment c'est de la pourquoi guerre. On y est tant attaché, c'est parce que toutes nos vacances, à partir du premier jour des vacances jusqu'au l'avant-dernier jour, avant la rentrée, on allait passer nos vacances là-bas chez les grands-parents. Okay. Voilà, c'est pour ça qu'on est si attaché à cette région.
Ouais, tu étais proche de tes grands-parents?
Ah oui, très proche. Ouais. Mmh. Okay. Okay. Très proche, oui.
Est-ce qu'ils ne parlaient pas toi, tes grands-parents?
Oui. Mm-hmm. Ils ne parlaient pas toi et ma grand-mère disait toujours « Oh là 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 là, ils ne vont pas nous comprendre quand ils vont avoir des copains ou copines, ils ne vont pas nous comprendre avec le patois. » Mais ma grand-mère parlait, mais mon grand-père, il parlait très très français aussi. Hein. Mais ma grand-mère, davantage parlait patois que mon grand-père. Mm-hmm. Puis tu sais, c'était encore quand les femmes allaient encore au lavoir. Alors, elles se réunissaient tous et elles parlaient tout de patois. Et... Alors, c'était toujours les petits commérages, tu sais bien, avant la machine à laver. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et alors, toi, tu comprends le patois?
Alors, je le comprends, mais je serais incapable maintenant de le parler. Si, des mots comme ça, mais je serais incapable.
Hein. Ouais?
Ah oui.
Ah, moi, j'aimerais bien que tu m'apprennes un mot au patois. Oh, ben, tu pourrais?
Oh, ben, ça ne vient pas sur le moment, mais bon. Non, parce que, ben, après, donc mon père était coiffeur. Après, ben, il a eu ses salons de coiffure et tout ça. Et dans les salons de coiffure, on parlait pas patois, hein. On parlait français. Puis c'était au moment de la guerre. Alors, ben, il savait traduire l'allemand. Il savait parce que, bon, ben, il y avait des personnes, des profs qui venaient pour lui faire traduire des lettres, hein. Avec l'occupation et tout ça. Hmm? Ah non, non, on ne parlait pas patois du tout normand. Mm-hmm. Je ne connais même pas.
Hmm? Et ouais, mais tes premières années de vie se sont donc passées avec la guerre.
Voilà.
Hmm? Parce que bah, du coup, j'imagine que tu n'as peut-être pas trop de souvenirs aussi, toi, de ces moments-là. Mais,
Non, j'étais jeune, hein, puisque la fin de la guerre, c'était en 1944. Hein. Ouais. Alors donc... ici, c'est beaucoup fêté parce qu'on fête encore les plages de débarquement. Hein. Mais moi, c'est un souvenir très, très, très vague. J'avais 4 ans. Alors, on habitait au bord de la mer et nous avaient évacués à Lyon-sur-Mer. On habitait, c'est à 10 km d'ici. Et nous avaient évacués pour pas qu'on soit en bord de mer s'il y avait des problèmes.
Mm-hmm. Mm. Mais...
Mais j'ai des très très vagues souvenirs, je ne peux pas dire que je... Non. Par contre, des fois j'ai la nostalgie de me dire, eh ben, on a vécu, c'est certain qu'on a vécu les 30 glorieuses, comme on dit, de notre jeunesse. Mais je me dis, arrivé en fin de vie comme ça, je me dis des fois quelle amertume que j'ai... Parce que quand tu as 20 ans, tu as plein d'espoir. Tu as plein d'espoir, tu crois que tu vas changer le monde. Et puis quand tu as... Ben, j'ai 83 ans, et ben maintenant je me dis, oh là là, mon Dieu. C'est un peu... avec tous les événements, avec tout ça, je me dis, c'est un peu de la nostalgie que j'ai, parce que je dis, on va quitter un monde, comment il sera pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est vrai que nous, on avait plein d'espoir, mais maintenant, je vois un de mes fils, le dernier, il a 2 enfants, un qui a 10 ans et l'autre qui a 6 ans. Et ben, depuis qu'ils sont nés, c'est le Covid, il y a que des mauvais événements, si tu veux, la guerre et tout ça. Alors je me dis que c'est pas si facile que ça.
Et ça me touche beaucoup quand tu parles de la notion d'espoir. Comment est-ce que tu as l'impression que l'espoir est né en toi quand tu étais jeune? Est-ce que tu as l'impression que l'espoir était toujours là? Espérer sauver le monde, avoir un monde meilleur, tout ça?
Ah oui, j'avais toujours espoir qu'on aurait un monde sensationnel, que ben, comme on idéalise tout, hein, qu'on allait tout transformer, que tout allait être formidable, tout, hein. Mais on n'avait pas non plus les notions de maintenant, la climatologie, il y a tout ça, on n'avait pas tout ça, ça nous préoccupait pas à l'époque, hein. Alors bon. Mais il y a eu quand même des guerres. Il y avait la guerre d'Algérie, quand on était tout jeune. Il y avait la guerre d'Indochine, tout ça. Mais on a été très, très marqués par la guerre d'Algérie, parce que nos copains, ils partaient à la guerre d'Algérie, puis il y en avait qui restaient tout leur temps de régiment. Hein. Alors, voilà.
Mais alors, toi, comment est-ce que ton espoir... Comment? Est-ce que tu étais quelqu'un qui manifestait, qui portait des idées?
Oui.
Tu vois, comment tu faisais vivre ton espoir?
Alors, moi j'étais infirmière. Alors, en 68, il y a eu, il y a eu des manifestations pour améliorer le travail, surtout comprendre un petit peu plus les jeunes, les gens qui étaient dans la souffrance et tout ça. On n'avait jamais le temps et tout. Alors, j'ai même fait, je sais pas combien de temps de grève, tu sais. Alors, non, c'était, j'aimais bien, et puis voilà.
Est-ce que t'as toujours été, t'as toujours eu le sentiment d'être libre, d'avoir de l'espoir dans le monde dans lequel t'as grandi?
Ah oui.
Tu t'es senti, est-ce que tu t'es senti comme une femme libre pendant ta vie?
Ah oui. Oui, parce que avec mon mari Michel, c'était comme ça, on était un couple complémentaire. Donc, il savait respecter ce que j'aimais et moi je respectais ce qu'il aimait, parce que il faisait beaucoup de sport à l'époque, c'était beaucoup de foot et tout ça. Mais on s'est toujours bien entendu parce que on se respectait mutuellement. Voilà.
Oh, ben c'est super. Mais est-ce que tu as vécu aussi l'arrivée de la pilule, les questions rapport au droit à l'avortement? Est-ce que tu as vu, j'imagine que tu es au courant, que c'est des droits qui reculent pour les femmes?
Ah oui, oui.
Comment est-ce que tu le vis, ça, toi, tu vois? Qu'est-ce que
mal,
ça te fait?
Très mal, surtout en Amérique et tout ça, hein, c'est terrible. Hein. Et je me rappelle que quand la loi Veil est passée, on avait attendu jusqu'à, je crois que c'était 1h ou 2 du matin, pour savoir si la loi allait passer ou pas. Ah oui, ça par contre. Alors par contre, moi j'ai vu des femmes mourir de tétanos parce qu'elles s'étaient fait avorter, les pauvres, mais avec des instruments entre personnes, et entre dames, et puis elle mourait de tétanos à l'hôpital. Moi, j'en ai vu mourir. Hein. Alors moi, j'ai toujours été vraiment pour l'avortement, parce que, et puis aussi pour la pilule, quoi, parce que je me dis, tout revenait à la femme. C'était la femme qui décidait tout. Des fois, les hommes, ils n'étaient pas beaucoup engagés là-dedans. Hein. Pas du tout, même.
Et oui, il y a des grosses réflexions où on retire ce genre de liberté là, tu vois. Mmh. Ah bah, alors oui. Que c'est la liberté de choix. Mmh. Et les femmes, on a mis du temps à acquérir une liberté de choix. Mmh. Donc nous faire reculer ce droit-là, c'est mmh. très grave.
Ah oui, c'est surtout à notre époque. Hein.
C'est grave. Mmh. T'imagines?
Ah oui, surtout à notre époque. Hein. Ah oui.
Mais je dirais que c'est plus compliqué pour moi ces temps-ci de trouver l'espoir. Et j'aime le fait que tu aies mis ce mot-là dans ta bouche. Genre, le mot espoir, il est fort parce que, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'espoir collectif? Comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour toi, pour générer de l'espoir?
Ben, moi, je vais te dire déjà, moi, je suis croyante, hein, pratiquante. Plus ou moins, mais enfin assez et même assez pratique en fait. Mais j'étais plutôt de gauche, et je suis encore, et bien que maintenant les partis, c'est moins qu'à mon temps. Hein, c'est, maintenant, on ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche.
Hein, n'est-ce pas?
Et je faisais partie de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et alors, donc, de par mon travail, j'ai eu l'occasion d'aller faire des remplacements dans des usines et voir à quel point les femmes étaient vraiment... Dans les usines, elles n'étaient pas heureuses. Parce que d'abord, c'était au rendement, au rythme et tout ça. Et quand elles venaient à l'infirmerie, par exemple, pour dire qu'elles avaient un petit problème et tout ça, ben, tu avais le contremaître dans l'usine où j'avais été, qui était à demander pourquoi elle était venue. Je dis, vous n'allez pas savoir pourquoi elle est venue. Tu vois, ils venaient, mettons, chercher des serviettes, on disait, tu vois, mais tout était contrôlé. Hein. La vie d'usine, hein, c'était très, très difficile. Alors moi qui étais en milieu hospitalier, je n'étais pas habituée à ça, mais ce stage-là, ce remplacement-là, m'avait fait énormément de bien parce que ça m'avait ouvert les yeux. Parce que en général, quand on est dans... Moi, j'étais en milieu hospitalier, alors on ne voit que son secteur professionnel sans avoir tellement d'ouverture. Et après, j'ai fait un remplacement clinique pour... comme enseignante d'aide-soignante, et je me suis dit, eh ben, il n'y a pas que l'hôpital qui est bien, là, il y a des choses cliniques qui sont bien, il y a des choses... Et après, j'ai fait aussi de la médecine du travail. Et je me suis dit, la médecine du travail, quand mon troisième garçon est né, parce que je voulais travailler à temps partiel. Mm-hmm. Et alors forcément, en médecine du travail, quand une personne venait pour, par exemple, un petit bobo de rien, quand tu avais vu des gens mourir en milieu hospitalier, tu te disais, mais c'est un monde, c'est un monde.
Oui, hein.
Mais d'un autre côté, ça prouve aussi que quand j'y suis restée 15 ans, et je me suis aperçue que à travers des entretiens comme ça, avec des personnes qui venaient, qui passaient la visite et tout, ben, fallait pas regarder que le côté un peu, mais fallait aussi regarder qu'il y avait des grandes souffrances. Mm-hmm. Oui, il y avait des grandes souffrances.
Mm-hmm. Et notamment, j'imagine qu'il y a une différence à ton époque et à la nôtre sur la place de la santé mentale. Mm-hmm. Tu sais, la dépression, le burn-out, tous ces mots-là, ça n'existait pas non plus dans l'ancien temps. C'est ma mamie qui utilise cette appellation-là. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par l'ancien temps. Ouais.
Mais
et ouais. T'es d'accord qu'il y a tu vois ce que je veux dire, dans le milieu hospitalier, on voit aussi plus de maladies de santé mentale qui se ressortent, dont on parlait pas, j'ai l'impression, à votre époque. La dépression, par exemple.
Oh, il y en avait aussi des dépressions, mais c'était des traitements très, très, très... très lourd, hein. C'était des électrochocs, c'était des choses très, très... Que maintenant, on traite la dépression, mais c'est souvent quand même sous forme de médicaments. C'est quand même moins traumatisant.
Hein? Bah oui.
Alors...
Ah oui, hein. Mais alors, quand je te dis, par exemple, le mot « ancien temps », tu vois, quand je te parle de l'ancien temps, qu'est-ce que ça t'évoque, tu vois? Les mots ancien temps.
Ben, ça m'évoque comme tout le monde à mon âge. Hein, ben, un peu mon enfance, quoi. Et puis, ben, un peu ma jeunesse. Et puis, mais j'ai pas tellement la nostalgie de dire, tiens, ben, je suis âgée, oh là là, c'est catastrophique et tout ça, non.
Ouais.
Non.
Tu vis bien ta vieillesse?
Oui, dans l'ensemble, oui. Ben, forcément, depuis que j'ai perdu mon mari, je suis un petit peu plus isolée, un petit peu plus seule. Mais enfin, bon, comme j'ai des très, très bons rapports avec les petits-enfants, les... Ah oui, oui, j'ai des très bons rapports avec mes fils et mes belles-filles. Hein. Mm. Ah oui, oui.
Et oui.
Sans problème. Mais enfin, il faut reconnaître que depuis que... Eh ben, on est un peu plus isolés, mais ça, c'est la vie, hein.
Ouais.
Hein? Mais ça ne voulait pas dire qu'autrefois c'était l'idéal non plus. Hein?
Rien, c'est ça.
Parce qu'elles étaient. Enfin, moi, ce que j'ai connu chez mes grands-parents, ils avaient obligé de s'occuper, mettons, d'une grand-mère. Elle restait à domicile, elle n'allait pas en maison de retraite et tout ça. Mais par exemple, pour une belle-fille, eh ben, ça ne devait pas être toujours marrant de. Ben parce que c'était quand même la mère et, hein, qui commandait, et la belle-fille, et ben...
Ouais.
Ah non, ça devait... Et puis alors, bon, c'est pas... C'est une sorte de remède, mais il n'y avait pas de télévision. Alors, moi, je suis contre regarder tout le temps la télévision, mais ça peut être aussi une diversion pour certaines personnes qui ne peuvent pas sortir.
Oui. Ouais.
Et je me dis que, non, je... Alors, par contre, je me dis que je suis contente pour Michel, enfin mon mari, parce que je suis sûre que lui, il ira pas en maison de retraite. Et puis moi, bah, je me dis, tant que je me suffis, c'est bien, mais ça ne sera pas éternel non plus. Alors, dans la transmission, je dis qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas transmettre. Parce que, par exemple... C'est un exemple. Hein. Quand on allait à midi chercher de l'eau, puis avec le seau, qu'on allait chercher de l'eau fraîche et tout ça, qu'est-ce que tu vas aller dire à des jeunes? Ils vont se dire, mais c'est plus possible. Ça, ils ne l'imaginent même pas que c'était comme ça. Alors, il ne faut pas imposer. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Moi, je crois. Il y a des choses qu'on peut transmettre sur un peu la société, mais il ne faut pas non plus être trop moralisatrice pour dire, eh ben, avant c'était mieux. Non, ce n'était pas forcément mieux. Hein. Hein? Ah oui, tiens, aussi, ça nous empêche de rêver.
Mm-hmm. Ouais.
Hein? Ça nous empêche de réfléchir. Alors, il ne faut pas être non plus contre. Mais il y a aussi des inconvénients, ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche de rêver. Ça... Et il faut une part d'inconnu. Il faut une part d'inconnu.
Ouais.
Moi, je ne sais pas pour tout, que tout soit solutionné.
Bah oui. Mais c'est vrai, il nous faut du mystère.
Oui.
Ah, mais voilà.
Ah non, mais c'est vrai.
Bah oui. Hein? Alors, pourquoi c'est important l'inconnu, pour toi?
Qu'il faut une part d'inconnu.
Ouais.
Eh bien, parce que ça nous oblige à rêver, à se dire, ben tiens, ben ça sera pour être meilleur, ça sera pour... voilà, c'est un peu ça.
C'est important, oui.
Mm.
Parce que de tout prédire, finalement, il n'y a pas de magie, quoi.
Voilà, voilà.
Est-ce que tu pourrais dire que quand tu avais 20 ans, tu rêvais beaucoup? Quand tu étais dans l'ancien temps, avant le progrès technologique, les smartphones et tout ça, est-ce que tu dirais que tu rêvais beaucoup?
Bah, on rêvait toujours... d'un monde meilleur. Et on rêvait... Alors, nous, on est des enfants d'après-guerre.
Ouais.
Alors, on a vu la reconstruction. On a vu... Ben avant, il y avait des baraquements. Après, il y a eu des... Ben, les HLM, ça n'existait pas. Alors, on a vu quand même que... On a vu se reconstruire la France, en fait. Alors, ben, on était contents de ça, quand même. Et puis... Ben, c'était aussi le temps où on comptait pas tellement, hein. Tu sais, dans les 30 glorieuses, là, on était. On avait pas, y a l'essence, bon, on faisait pas trop attention. On faisait presque attention à rien parce qu'on on a vu la France se reconstruire, quoi. C'est ça notre époque à nous, hein. La guerre nous a beaucoup marqué, quoi. Surtout. Moins peut-être dans le sud, parce que mais nous, par ici, où il y avait. Ben, les Allemands étaient là, alors ils sont restés longtemps, après ils ont été prisonniers. Alors, bon, ben, on a vu tout ça, quoi.
Et alors, tout c'était le monde des possibles, en fait.
Oui.
L'après-guerre, c'est ça.
Ah oui.
Tout pouvait s'inventer, quoi, c'est ça?
Ah oui, oui.
T'avais vraiment ce sentiment-là, toi?
Ah oui, oui. Je me disais, oh là là, quel progrès. On a vu aussi, bon, ben, quand on parlait du travail à la chaîne, après, il y a eu les robots, ça a amélioré. Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont quand même amélioré. Il y a eu moins d'accidents de travail, il y a eu des choses quand même, faut quand même reconnaître.
Et oui.
Il y a eu les syndicats qui ont fait bouger aussi les différentes professions, les gens qui manifestaient pour arriver à avoir des salaires plus convenables, des conditions meilleures, tout ça. Il y a eu une évolution quand même. Ben, c'est grâce à tous ces groupements-là, hein, qu'il y a eu une évolution.
Oui, grâce au militantisme collectif.
Voilà. Ah oui, ah oui, 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 ça c'était important. Hein.
Le militantisme?
Ah oui. Oui, parce que ben c'est pas en étant tout seul dans son coin qu'on serait arrivé à des choses quand même. Mais il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé aussi, hein.
Mais tu dirais quand même que y a eu un moment où en fait tout était possible après guerre.
Ah oui.
Puis que le progrès a enfermé,
rechuté.
Ouais.
Rechuté.
Comment tu l'as vu passer à partir des années 2000, peut-être aussi
un
wow, là on est dans le beaucoup, quoi.
Mais oui, et puis alors, y a eu des faits, hein, y a eu qu'on a vécu, il y a eu le mur de Berlin, il y a eu les tours, là, en Amérique, ça fait réfléchir aussi beaucoup les gens, tu vois. On n'aurait jamais imaginé ça. On a vécu quand même tout ça.
Ah, ça. Oh, wow. Chargé d'histoire.
Hein. Oui, c'est vrai.
Ah, ça. Et ouais. Et maintenant, on se retrouve un peu figé. Moi, j'ai l'impression que là, notre génération, on vit pas dans un monde des possibles. Et c'est difficile d'avoir de l'espoir, justement. Tu vois. Je sais pas comment est-ce que. Ouais, c'est difficile d'avoir de l'espoir.
Ah oui.
D'en trouver.
Ah, ça ne m'étonne pas, oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Parce que c'est un monde un petit peu plus individualiste, hein, ça là-dessus.
Tu vois, là, c'est comme tu as ton espace libre pour transmettre un message pour ben, les gens qui vont entendre ce que tu as à dire. Un message qui parle de, ok, ben, peut-être. Un proverbe de vie, quoi, tu vois, quelque chose qui te porte, toi, et que tu aurais envie de transmettre.
Ben, que malgré tout, j'ai encore beaucoup espoir dans l'amélioration de la vie pour les jeunes, en pensant qu'il faut quand même qu'ils essaient de se rapprocher les uns des autres pour pas être dans leur petit univers. Et puis, je ne sais pas trop quoi dire, moi.
Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, si tu avais été un jeune de notre génération, là, maintenant, avec tout le recul de ton expérience de vie, tu vois?
Oui. Eh ben, qu'il faut croire à la vie, hein. Faut croire et faut faire le plus possible de positif. Ça, c'est très important parce que, et puis même quand quelqu'un, il a, ben, il y a des, Il y a des phases un peu plus difficiles, ben faut croire que on va y arriver tôt ou tard, mais on va y arriver.
On va y arriver. Pour toutes nos convictions, pour tout ça quoi. Ouais.
Faut faire quand même attention. Alors tu vois, j'ai voulu aller retirer des tâches que j'avais là.
Ouais.
Alors ça va, je vais avoir une deuxième séance, mais quand je suis arrivée là. La dermatologue m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire à votre âge, retirer des taches? Mais pour moi, c'est de l'esthétique, ça. Tu vois, ils ne peuvent pas comprendre que même si on a 80, on a envie encore d'être, essayer d'être coquette, essayer, tu vois.
Bah oui. Bah oui, c'est important. Mais tu nourris l'esprit et le corps, tu soignes le corps et l'esprit. Vous avez une anecdote. Vous avez vécu quand même un bout de temps ensemble.
Je sais pas ce que. Ah si. Si si, dans les scènes qui me reviennent. Du coup, une fois, j'étais rentré de soirée avec les filles, enfin avec tout un groupe de potes.
Ah oui.
Et en fait, il s'est trouvé que pour rentrer, on est passé par tous les lieux où les potes habitaient. Et les mecs. Donc les potes retournent chez eux et moi, je finis du coup avec les sept nanas qui restent. Et on dort chambre. Et du coup, quand je me lève le matin, je sais pas, il y a peut-être deux, trois personnes qui vont prendre un café. Et du coup, ma tête était dans la cuisine. Puis elle me dit, ah, je viens de voir passer une fille, sympa. 2, 3, 4.
Mais je me dis, mais il a un harem. Qu'est-ce qu'il a emmené là? Tout le monde est là dans la salle. Ouais. Oh, ben je dis, dis donc, Arthur, tu vas pour Molo.
C'est trop fort.
Trop.